6h-9h, livre d'été.
Elle est née en 1963. Agnès Clancier a grandi comme l'héroïne de son dernier roman, à Limoges. Elle a publié un récit, 5 romans et un recueil de poèmes sur les aborigènes d'Australie intitulé Outback, disent-ils. L'auteur a pas mal voyagé, avec une notamment en Afrique, au Burkina Faso ainsi qu'en Australie. 7e livre d'Agnès Clancier, un livre qui raconte de manière romancée la vie de Maryse Bastier, une des pionnières de l'aviation à la fin des années 20. Résistante, militante pour le droit de vote des Françaises. Geneviève Bridel a voulu savoir si Agnès Clancier a choisi de parler de cette femme parce qu'elle-même, comme enfant, vivait dans la ville natale de l'aviatrice à Limoges.
Effectivement, je l'ai rencontrée quand j'étais enfant. J'habitais à Limoges à l'époque et elle est née dans cette ville. Donc c'est ce qui a aussi attiré mon attention. Et c'est la raison pour laquelle elle a toujours fait partie de mon panthéon et des personnes que j'admire. C'est le fait qu'elle soit originaire de la même région que moi. Évidemment, c'est un point commun parmi beaucoup d'autres. Elle me fascine par sa personnalité, par ce qu'elle a fait. Mais je pense que si elle n'avait pas été aviatrice, elle aurait fait d'autres exploits dans d'autres domaines. Mais je pense que quand on est de ce bois-là, on trouve toujours un moyen de dépasser ses limites et d'abattre des frontières. Voilà, c'est une héroïne. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire aussi une héroïne de roman. Je trouve que sa vie est tellement romanesque. Parce qu'elle n'a pas fait que des records d'aviation. Elle a été aussi résistante pendant la guerre. Toute sa vie, elle a manifesté une liberté et un courage hors du commun toute sa vie. Et c'est ce qui m'a fascinée chez elle, c'est cette personnalité-là.
C'est vrai qu'il y a quelque chose du modèle pour une femme chez cette Maryse Bastier, qui est née à la fin du 19e siècle quand même, en 1898, comme on dit chez nous, c'est bien ça?
Oui. Oui, c'est ça, oui.
Et dans ce roman, on va revenir sur ce terme de roman, vous racontez cette vie brève, parce qu'elle est morte à 50 et quelques années, sous forme de souvenirs que se raconte donc Maryse Bastier, l'héroïne de votre roman, à un moment bien particulier puisqu'elle est aux mains de la Gestapo et qu'elle doit lutter contre la peur de la torture qui envahit effectivement les prisonniers, les résistants, en l'occurrence comme elle, qui se trouvent entre les mains de la Gestapo. Alors, pourquoi vous avez choisi ce point de départ précis ?
Eh bien, parce que justement, dans son parcours, c'est un moment exceptionnel. Elle a vécu énormément de choses exceptionnelles, mais ce moment-là, c'est le seul dans toute sa vie, me semble-t-il, où finalement, elle ne maîtrise plus rien, où finalement, ça ne dépend pas d'elle. Quand elle bat ses records, et même quand elle fait son record de durée, et qu'elle, qu'à chaque fois, elle risque la mort, finalement, c'est toujours elle qui décide. Et là, pour la première fois...
Elle est impuissante.
Pour la première fois, elle est impuissante, oui. Et je me suis demandé, on s'est tous demandé comment on aurait pu vivre ce genre d'expérience, comment on réagirait, enfin... Venant d'une personne comme elle, oui, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qu'elle avait pu ressentir? Comment est-ce qu'on affronte ce genre d'épreuve-là? Même pour quelqu'un qui a affronté la mort des dizaines, des centaines de fois, je pense que c'est pas la même expérience. Et oui, j'ai commencé mon livre par cette scène-là pour ces raisons, parce que dans sa vie, c'est vraiment le point, c'est un tournant, quoi. D'ailleurs, après, ça fait déjà 4 ans qu'elle se bat, qu'elle est résistante quand elle est arrêtée. Personne ne pouvait ignorer qu'elle était résistante, alors que dès 38, elle clamait partout qu'elle voulait se battre et défendre son pays. Donc forcément, on pouvait supposer qu'elle le faisait. Et puis on l'avait beaucoup prévenue, elle avait des camarades qui avaient été arrêtés, donc elle s'y attendait, et malgré tout... je pense qu'on n'est jamais préparé. J'ai imaginé que dans sa cellule, elle cherchait de la force dans son passé, en se remémorant les gens qu'elle avait aimés, les exploits qu'elle avait accomplis, voilà, tout ce qui avait fait sa force, ses souvenirs d'enfance. Alors les gens qu'elle a aimés, enfin qui dont beaucoup étaient morts en plus, donc voilà, je pense qu'il était logique qu'elle pense à eux à ce moment-là.
Alors, le choix du roman, plutôt qu'une biographie, c'est justement parce que vous comblez des trous, vous imaginez des choses qui ont pu se passer dans sa tête. En l'occurrence, il y a peu de choses, semble-t-il, sur cette arrestation, ses conditions et la manière dont elle est sortie. Vous en dites quelques lignes.
Oui, y a plusieurs raisons au choix du roman. D'abord, comme je l'ai dit, je trouve que c'est une héroïne qui méritait un roman. Il y a déjà eu des biographies dans les années 50, mais bon, un roman c'est différent, quoi. C'est autre chose. C'est un écrin qui je trouve lui convient mieux. Alors, il s'agissait pas tant de combler des vides, parce que au contraire, je procède quand même pas mal par ellipse. Je raconte pas tout, hein, des records. Elle en a battu rien que les records mondiaux. Elle en a battu 10, et je les décris pas tous, évidemment. Ce serait assez fastidieux, mais ça permet. Il me semblait que ça permettait une plus grande proximité avec elle, une plus grande intimité. Je voulais vraiment comprendre ce qu'elle pouvait ressentir, comment, et voir les choses un peu de l'intérieur, quoi.
Vous avez parlé du courage de Maryse Bastier, courage physique pour monter dans un avion dans les années, quoi, les années 20, peu après la Première Guerre. Mais il y a aussi ce courage pour assumer les deuils et là encore, c'est un vrai personnage de roman parce que elle est entourée de pertes, de deuil. Son père, son frère, son fils plus tard, son second mari.
Oui, c'est ce qui rend aussi ce destin tellement fascinant, c'est que elle avait aucune raison d'être forte et sûre d'elle, et parce que elle a été effectivement frappée par des tragédies très tôt. Son père, elle l'idolâtrait, et il est mort alors qu'elle avait une dizaine d'années. Elle a perdu son unique frère à la guerre de 14, et son cousin Germain aussi, dont elle était très proche, pratiquement à quelques mois d'intervalle. Donc vraiment, elle a été frappée par la mort très très tôt. Elle a perdu effectivement son fils à l'âge de 18 ans. Il était marin, il est mort à Bizerte de la typhoïde. Et puis elle perdait sans arrêt, tous les jours, des camarades aviateurs, parce qu'à l'époque, monter dans un avion, on n'était jamais sûr d'atterrir. Voilà, c'était quand même un peu la roulette russe. Et son deuxième mari, effectivement, est mort assez jeune aussi, en 1926, je crois. Ils ne vivaient plus ensemble puisqu'elle était déjà à Paris, et il était resté à Bordeaux. Sa vie a été semée de deuil constamment. Mais à l'époque, quand on était aviateur, c'était quasiment quotidien, cette proximité avec la mort.
Alors, juste encore une description de cette femme, un petit bout de femme, 1m54, dites-vous, qui, en fait, découvre l'aviation par ce filleul de guerre qui deviendra son second mari et dont elle est la marraine de guerre pendant la Première Guerre mondiale, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Elle avait besoin de se réaliser et de faire des choses qui sortaient de l'ordinaire. On suit souvent dans notre vie le chemin le plus, voilà, celui qu'on nous propose, le plus évident. Elle se contentait jamais de ça. Il fallait toujours qu'elle trouve un moyen de ruer dans les brancards, de s'enfuir. Même gamine, quand elle était enfant, quand quelque chose n'allait pas, elle s'enfuyait, elle partait. Voilà, c'était fort tempérament.
Vraiment, mais pas commode, j'imagine non plus, parce qu'elle est râleuse, même plus tard, vous le montrez, elle est rebelle, elle est désobéissante. C'est vraiment le prototype de celle qui résiste.
Oui, voilà, oui, c'était une résistante, oui. Alors c'est sûr que ça ne devait pas être drôle tous les jours de la côtoyer quand elle avait un objectif et qu'elle voulait l'atteindre. Oui, elle avait la réputation d'avoir une forte personnalité. Mais je crois que si on n'a pas une forte personnalité, on ne fait pas tout ça. On ne fait pas la moitié de ce qu'elle a fait.
Ce que je veux dire, c'est que rien la destinait dans son milieu familial, dans son histoire familiale, à part ses deuils qu'elle a dû surmonter, à devenir ce qu'elle est devenue.
Non, rien du tout, en effet. Et alors, en plus, une femme, à cette époque-là, tout était extrêmement difficile, encore plus qu'aujourd'hui. Par exemple, elle s'est mariée très jeune, contre l'avis de sa famille.
17 ans.
Elle a eu très vite un enfant, et peu de temps après, elle s'est mise en tête de divorcer. Bon, c'était dans un milieu ouvrier, en province, vous voyez. Il fallait quand même être assez original pour faire tout ça, et elle y est arrivée. Bon, le divorce, elle ne l'a pas obtenu très très facilement, mais elle a fini par l'obtenir. Elle n'en faisait qu'à sa tête.
Pas facile de se faire une place dans l'aviation en France dans les années 30. La Française Maryse Bastier y est parvenue, comme le raconte Agnès Clancier dans un livre intitulé « Une trace dans le ciel ». Et à 8h42, Agnès Clancier et Geneviève Bridel reviennent après un crochet sur la route et une chanson.
Infotrafic RTS.
Soyez vigilants si vous circulez sur l'autoroute Vevey-Lausanne, car des objets sont signalés entre Chèbre et le tunnel du Flonzalais en direction de Lausanne.
J'passe des complexes, ouais, j'claps la wax. J'passe des contextes, ouais, j'claps la wax. J'espère face aux complexes, ouais, j'claps la wax.
pars en piste, ouais, si je fleure. Le mix qui me lance, si je fleure. Mon as de kiss, si je fleure. Mon axe de fils, si je fleure. Moi je clapse la wax, ouais, si je fleure. Je passe de caresse, si je fleure. Let's get this, si je fleure. Lost trop l'est, si je fleure. La mise qui bosse, ouais, ça je m'en tape. Je casse l'ambiance, ouais, si je fleure. Le boss qui chiasse, ouais, si je fleure. Le nas qui suce, ouais, si je fleure. Je lasse qui glisse, non, ça je m'en passe. Je pousse les basses, ouais, si je fleure. La masse qui danse, ouais, si je fleure. La masse qui mousse, ouais, si je fleure. La masse qui demande à ce que ça fasse mal. Je passe à des complexes, ouais, je clapse la wax. Je passe à des contextes, ouais, je clapse la wax. J'laisse pas de place au complexe, ouais, je clapse la wax. Ouais, je clapse la wax, mec. Ouais, je clapse la wax. Je reste en piste, ouais, si je fleure. Le mix qui boxe, si je fleure. Mon as de kiff, ouais, si je fleure. Les mises sont max, ouais, si je fleure. Les filles sont force, ouais, si je fleure ça. Je reste en poste, si je fleure. Le mix qui tape, si je fleure. Les mises sont max, si je fleure. Les mises en face, ouais, si elles s'en tapent. Je pousse la danse, ouais, si je fleure. Les roses qui passent, ouais, si je fleure. Les filles sont liesses, ouais, si je fleure. Les filles sont face qui veulent pas que ça passe. Mais je pousse les passes, si je fleure. La fausse complice, ouais, si je fleure. La masse qui danse, si je fleure. La masse qui demande à ce que ça fasse mal. Je passe à des complexes, ouais, je clapse la wax. Je passe à des contextes, ouais, je clapse la wax. Je laisse pas de place au complexe, ouais, je clapse la wax. Ouais, je clapse la wax, mec. Ouais, je clapse la wax. Je passe à des complexes, ouais, je clapse la wax. Je passe à des contextes, ouais, je clapse la wax. Je laisse pas de place au complexe, ouais, je clapse la wax. Ouais, je clapse la wax, mec. Ouais, je clapse la wax.
Il n'y a pas que les anglo-saxons qui font claquer des mots sans vraiment leur donner de sens. À l'instant, le roi Angus avec la wax. Et à 8h45, on replonge dans le livre d'été proposé par Geneviève Bridel. Têtue, mais pas commode, mais sacrément déterminée, telle était l'aviatrice Maryse Bastier, à qui l'auteur Agnès Clancier a consacré un livre. Pour se faire connaître dans le milieu assez fermé de l'aviation, il fallait battre des records de distance, de vitesse ou de durée. Un record bien différent des autres. Explication d'Agnès Clancier.
Pour la vitesse, au fur et à mesure que le progrès technique avance, on peut toujours aller plus vite, puisqu'il suffit que les avions soient plus modernes, soient plus modernes, plus performants. Pour la durée, par contre, vous avez une contrainte qui n'existe pas dans les autres records, qui est le corps humain. Au bout d'un moment, le corps humain ne peut plus résister. Et la limite, elle était là. Elle était humaine dans ce cas-là. Enfin,
c'était pas le carburant.
Mmh. C'est pas le carburant, encore que... Et alors il faut s'imaginer dans le contexte, parce qu'à chaque fois qu'elle battait ce record de durée, c'était à chaque fois une expérimentation, parce que à chaque fois elle prenait un appareil qui n'avait jamais fait cela, et à chaque fois il fallait plus de carburant, donc c'était un appareil qui n'avait jamais emporté autant de carburant. Donc vous voyez, il n'y avait pas de test avant, on savait pas si si elle pourrait décoller, si elle pourrait rester en l'air avec autant de carburant avec elle. C'était... Donc à chaque fois, c'était un pari complètement fou, en réalité.
Alors, je vous laisse nous décrire cette atmosphère en vol.
Mais quel ennui. Tourner autour d'un aérodrome sans autre but que d'avoir à tuer le temps. Interminables minutes, paysages infiniment les mêmes. Rien pour distraire ou atténuer la souffrance, reposer l'esprit. Rien qui aide à lutter contre l'endormissement. Les gaz qu'elle respire lui soulèvent le cœur. Elle sent peu à peu son corps s'affaiblir. Ses membres se mettent à trembler et à chaque fois, maîtriser le tremblement exige plus d'efforts, plus de temps. Quand la seconde nuit commence, 26 heures se sont écoulées, 1560 minutes, dont chacune est plus longue que la précédente. Les pieds comme des plombs sur le palonnier, la main droite en fusion sur le manche à balai, engoncée dans la carlingue de son avion torpedo, Maryse tourne, et tourne encore, transie de froid, le cerveau abruti par le fracas du moteur, terrifiée à la pensée de rencontrer un des avions militaires qui, cette nuit-là, font des exercices. Terreur justifiée, un avion passe si près qu'elle n'évite la collision qu'en cabrant son appareil qui file alors verticalement. À peine l'a-t-elle redressé qu'elle en aperçoit soudain un autre, juste au-dessus d'elle, si proche que les roues de son train d'atterrissage sont à quelques mètres de sa tête. La frayeur lui ferait presque oublier le froid glacial qui l'engourdit, les crampes intolérables, l'écrasante lassitude. Mais l'intermède est de courte durée. Ses paupières s'alourdissent, elle perd à demi-conscience, tente de rejoindre par la pensée les gens qui rentrent chez eux, chaussent leurs pantoufles, puis dînent en famille ou jouent aux cartes, se préparent des bouillottes et des tisanes, lisent des livres, douillettement allongés dans leur lit. Ses yeux se sont fermés. L'appareil s'est cabré et elle se réveille en sursaut. Dormir. Dormir. Mourir. Dormir. Elle ne peut plus reculer. Ne reste que le vaporisateur. Serrant les dents, elle s'envoie dans les prunelles un jet d'eau de Cologne. Radical. La brûlure est intense et chasse, pendant près d'une heure, la possibilité de dormir. Ensuite, il faut recommencer, toutes les heures, puis toutes les demi-heures, jusqu'à épuisement du flacon. Elle est certaine maintenant que rien ne l'arrêtera.
L'avion s'appelait la trottinette.
Oui, c'était vraiment minuscule. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, dans une fête aérienne à la Ferté-Alais, un Caudron G3, qui est l'avion qu'elle a utilisé pour son premier exploit, entre guillemets, ce qu'elle a fait pour se faire remarquer en passant sous les câbles d'un pont à Bordeaux. Un Caudron G3, c'est un avion qui est né en 1914. C'est minuscule, c'est fait de toile et de bois, mais c'est vraiment une boîte d'allumettes, quoi. Et avec cet appareil-là, enfin, elle faisait des choses, ces femmes, des choses extraordinaires. Celle qui deviendra plus tard son amie, qui était aussi de la même trempe qu'elle, qui s'appelle Adrienne Bolland, c'est avec un Caudron G3 qu'elle a traversé les Andes en 1921. C'est un avion qui plafonne à 4000 mètres, le col le plus bas dans les Andes est à 4300. C'était absolument impossible de le faire. Tout le monde le disait que c'était impossible. Et elle l'a fait quand même. C'était des femmes qui étaient de cette trempe-là, quoi. Elles étaient plus que casse-cou, le mot est faible.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'en plus, elles devaient tout le temps prouver et puis faire des actions d'éclat pour obtenir du matériel, pour obtenir des avions, pour avoir de l'argent, pour voler.
Oui, parce que d'abord ça coûte très très cher, tout coûte cher dans l'aviation, l'entretien de l'appareil, le simple fait de le mettre sur la piste, c'est pas gratuit, y a le carburant, enfin les révisions, enfin les pannes, tout coûte énormément d'argent, et puis elle ne pouvait pas être employée par une compagnie aérienne, puisque c'était les femmes ont très vite interdit de transporter du public, enfin d'être employées par des compagnies de transport public. Donc elle n'avait pas beaucoup de moyens de subsistance, en fait. Et oui, elle a couru après l'argent un peu toute sa vie. Alors, les exploits, ça permettait... D'abord, ça faisait de la publicité aux constructeurs de moteurs et de cellules. Donc eux, ça, c'était dans leur intérêt qu'avec leur production, des exploits soient accomplis. Et puis les pays y trouvaient aussi avantage, parce que c'était un peu comme les Jeux Olympiques, c'était une compétition internationale. Donc il y avait toujours des subventions, elle a eu quand même des aides de l'État de temps en temps, elle avait des primes quand elle battait un record mondial, elle avait une prime du ministère de l'Air. Bon, mais c'était... toute sa vie, elle a vécu de manière extrêmement... toute sa vie, elle a manqué d'argent. Oui, très précaire, très précaire. Oui.
Est-ce que, avec le recul de ces 7 livres publiés, vous diriez que le fil rouge qui les relie, c'est la notion de résilience, de volonté?
C'est intéressant ce que vous me dites, je n'y avais jamais pensé. Ce qui est sûr, c'est que parmi les thèmes qui sont pratiquement toujours présents dans mes livres, il y a le thème de la prison, de l'enfermement. Et c'est vrai que je ne l'avais pas prémédité, mais le fait que ce livre commence par une arrestation et qu'une grande partie de son action se passe finalement quand elle est en cellule, emprisonnée, c'est vrai que c'est... C'est pas tellement étonnant quand on connaît mes autres livres, parce que beaucoup de mes livres ont pour thème l'enfermement, la prison. Mais un seul fil rouge, c'est difficile de trouver un seul fil rouge. C'est plutôt des thèmes qui reviennent.
En fait, est-ce que les personnages ou les sujets, souvent, pas toujours, mais historiques que vous choisissez, vous permettent de trouver un écho à vos propres préoccupations ?
Ah, c'est pas tout à fait en ces termes-là. Disons que je ne cherche pas un écho à mes préoccupations, mais je me passionne pour un sujet.
Mais c'est parce que vous êtes une femme que vous rendez justice à des femmes vite oubliées.
Parfois, oui. Alors, tous mes livres ne sont pas dans ce cas-là, mais oui, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que c'est le cas.
Une trace dans le ciel d'Agnès Clancier, un roman publié chez Arléa. Prochain numéro de Livre d'été, la semaine prochaine, samedi prochain, à 8h30, avec Geneviève Bridel.
Livre d'été sur la première.